Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, comme chaque soir, c'est les informés durant une heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, et jusqu'à 20h, émission spéciale présidentielle, puisqu'on reçoit Madame la Ministre, Madame Nadia Eck, qui est venue donc aujourd'hui échanger avec nous, puisque c'est une émission spéciale autour des quartiers populaires. Nous allons aborder eh bien, les enjeux de cette campagne présidentielle, à la fois le désintérêt des quartiers, mais aussi également hein, le vote, puisqu'il est question de parler ce soir de ce vote, et à la fois aussi de ce vote utile, puisque, je ne vous l'apprends pas, les quartiers populaires ont tendance à s'abstenir. Parce que d'abord, un, ils n'y croient plus, et puis, d'abord aussi, il faut le dire, ils n'y croient plus, mais de plus en plus, ce fossé se creuse quand on parle d'inégalité. Vous étiez aussi plusieurs à m'alerter, en tout cas ici même, des différents quartiers de France, sur cette antenne même, dans les informés sur Beurre FM. Eh bien, ce soir, nous avons décidé de mettre les pieds dans le plat, sans détour, pour parler de cette campagne présidentielle et de ses enjeux. Pourquoi voter? Pourquoi il y a ce désintérêt? Est-ce que le vote est important dans les quartiers populaires? La réponse, vous le saurez dans une poignée de minutes. Et puis, c'est avec aussi des débatteurs, des élus, des acteurs de la société civile qui vont échanger avec Madame la Ministre, Madame Nadia, mais aussi vous, au 01 53 48 3000. Venez, vous aussi, interpeller Madame la Ministre, puisqu'elle est la ministre donc chargée des questions de la politique de la ville. Vous pouvez l'interpeller dès maintenant. Le standard est ouvert. Giovanni vous accueille. Un seul numéro, 01 53 48 3000. Voilà le programme que je vous propose pour ce soir jusqu'à 20h. C'est parti, et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Nadia, bonsoir, Madame la Ministre, chargée de la politique de la ville. Heureux de vous accueillir ici de nouveau. Comment allez-vous? Dans quel état d'esprit vous êtes?
Écoutez, dans un état d'esprit égal à celui dont vous avez l'habitude, en tout cas, c'est-à-dire toujours déterminé à faire avancer et la cause et nos sujets, et toujours engagé politiquement sur cette question des quartiers le combat contre les injustices sociales. Donc voilà, on est toujours dans cet état d'esprit, dans un contexte politique.
Combatif donc.
Extrêmement combatif dans un contexte politique assez compliqué, il ne vous aura pas échappé.
Alors,
et faire entendre justement cette voix qui est la nôtre aujourd'hui.
Dites-moi, vous saurez tout à l'heure, dans une poignée de minutes, hein, je vais commencer d'abord une petite interview avec vous, vous saurez tout à l'heure face à des débatteurs qui viendront aussi confronter, échanger hein, les idées concernant cette question des quartiers populaires avec le vote, l'abstention, le désintérêt et puis l'enjeu de cette campagne présidentielle 2022 à la fois avec Shannon Seban. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
La conseillère municipale, donc une élue qui est avec nous de la ville de Rosny-sous-Bois. Tout va bien, Shannon?
Tout va bien, toujours être grand plaisir d'être ici.
Eh bien, un plaisir partagé à vos côtés, celui que je ne présente même plus, puisqu'évidemment, les auditeurs le connaissent très bien. Il s'appelle Gamal Abina. Comment ça va?
Ça va très bien, allez, vous.
Tout va bien?
Impeccable.
Bon, super. Eh bien, écoutez, et puis il y a aussi un maire adjoint. Celui qui est chargé donc du numérique, mais également aussi des questions de notre jeunesse. C'est Amine Saha qui sera dans une poignée. Il s'est retrouvé un peu coincé dans les bouchons. Il arrive dans quelques minutes à peine, ici même, aux côtés donc, de Madame la Ministre. Tout d'abord, je voudrais, Madame la Ministre, Madame Nadia Hay, vous faire réagir avec cet écart de voix qui se rétrécit, qui devient aussi faible. Je parle du second tour. Un sondage qui met Emmanuel Macron un peu en difficulté face à Marine Le Pen. Hein. C'est un sondage qui a été publié aujourd'hui. Voici les résultats. Qui met clairement Marine Le Pen, très nettement quand même, hein, quand on voit les chiffres. Premier tour, on a Marine Le Pen avec 21%. Jean-Luc Mélenchon se hisse tout de suite après, hein, avec 15,5%. Emmanuel Macron, 28%. En revanche, quand on parle d'un second tour, eh bien, sachez quand même quelque chose de préoccupant. Le président candidat sortant recueille 52,5%, et puis face à Marine Le Pen, qui, elle, est extrêmement hausse, 47,5%. Je vous pose, sans tourner autour du pot, Madame la Ministre, est-ce qu'on peut s'inquiéter à, attendez, je fais le calcul, 12 jours de l'élection, 11 ou 12 jours de l'élection du premier tour?
Mais vous savez, Adil, nous sommes inquiets depuis plusieurs mois maintenant. Contre cette montée de l'extrême droite qui est assez vertigineuse. Le sondage révèle une vérité, une réalité à laquelle nous avons non seulement fait face, mais celle aussi que nous combattons chaque jour aujourd'hui, et sur le terrain, et sur les actions politiques que nous sommes amenés à mener, mais également sur cette campagne présidentielle. C'est Gérald Darmanin, il y a quelques jours, qui s'est exprimé sur la question.
Le ministre de l'Intérieur,
en
oui.
s'exprimant et en faisant le constat que, oui, l'extrême droite, demain, peut se retrouver à la tête de notre pays. Parce qu'il y a un glissement, petit à petit, une certaine banalisation, à la fois de la violence, à la fois des propos racistes, discriminatoires, de rejet, qui s'installent peu à peu et qui sont banalisés par une certaine frange de la population, on peut le dire, et qui ne trouvent pas aujourd'hui des voix suffisamment peut-être fortes pour les combattre avec peut-être autant de détermination que nous avons eu à
l'époque. Que vous me permettrez, Madame la Ministre,
de son père Jean-Marie Le Pen.
Vous me permettrez, Madame la Ministre, que, y compris dans les quartiers populaires, Marine Le Pen s'installe dans les esprits.
Et c'est, ça.
C'est là où ça devient préoccupant. Moi, je l'ai entendu dire, je vous donne un exemple, un cas de figure. J'ai échangé sur le département du 93, j'étais il y a quelques jours, j'ai échangé avec quelques habitants qui me disaient « Mais pourquoi pas tenter Marine Le Pen ?»
Mais c'est en cela où c'est complètement incompréhensible. C'est-à-dire que Marine Le Pen, aujourd'hui, n'a aucun projet pour ses territoires. Elle n'a aucun projet pour les quartiers populaires. Elle se fait la voix de ces quartiers populaires, mais elle n'a aucune action ni mesure concrète pour aider le quotidien des habitants de ces quartiers. Et ce qui est incompréhensible aujourd'hui, c'est de voir cette montée de l'extrême droite qui est totalement irrationnelle. Parce que quand vous rentrez vraiment dans le concret des choses, et c'est pourquoi aujourd'hui le débat politique, on n'entre pas dans le fond des choses. On navigue comme ça de manière totalement superficielle sur les sujets de notre société et qui doivent répondre à un quotidien. Et aujourd'hui, on préfère justement sortir des phrases toutes faites, être dans des polémiques, et plutôt que d'être dans le concret. Et Marine Le Pen, elle a adouci son image. Aujourd'hui, il y a un Éric Zemmour.
Elle a adouci son image, ou c'est Éric Zemmour qui est venu bousculer justement et occuper la place de Marine Le Pen?
Éric Zemmour maintenant occupe cette place de diabolisation que nous avons de l'extrême droite, qui a servi les intérêts de Madame Le Pen, parce qu'elle passe maintenant pour une personne totalement fréquentable, une personne qui s'est peut-être recentrée, une personne avec qui on peut discuter. Or, Marine Le Pen d'hier, c'est la Marine Le Pen d'aujourd'hui, et qu'il faut combattre. Et je peux vous dire qu'il y a quelques mois encore ici à votre antenne, Adil, et dans d'autres antennes, nous étions bien seuls pour combattre l'extrême droite.
Je veux vous poser la question. Franchement, à 11 jours, 12 jours du premier tour, est-ce que vous êtes préoccupé?
Mais évidemment. Évidemment, quand
je dis... Vous, Emmanuel Macron,
ce ne sont pas satisfaisants.
Qu'est-ce qui se trame?
Dès qu'il y a un effondrement de nos partis démocratiques, vous croyez que nous sommes satisfaits de voir un PS aujourd'hui qui est dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui? Nous n'avons pas aujourd'hui de partis démocratiques, les LR qui sont en totale perdition avec leurs candidates.
Anne Hidalgo, 2%, 2% dès le premier tour.
Et c'est un drame aujourd'hui.
Valérie Pécresse, 9,5.
C'est un drame pour notre démocratie, c'est un drame pour notre République de voir que seuls aujourd'hui les extrêmes peuvent exister aux côtés du seul candidat républicain qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Personne aujourd'hui ne peut se satisfaire de ce résultat. Et vous savez, cette haine viscérale que certains responsables politiques ont sur le terrain vis-à-vis du président de la République pour plein d'autres choses qui n'est absolument pas basée sur le concret, qui n'est absolument pas basée sur l'action que nous avons vis-à-vis des Français, qui est basée sur des choses totalement de second plan, peut-être des rancœurs, peut-être des frustrations qui n'ont absolument rien à voir sur l'action politique. Eh bien aujourd'hui, on le paye avec la montée de cette extrême droite.
Eh bien, on va en parler. C'est le sujet, c'est la thématique de ce soir dans le cadre de cette émission spéciale présidentielle. Vous voulez bien qu'on aille direction le standard?
Allons-y.
Parce que les auditeurs aussi veulent vous interpeller au 01 53 48 3000. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et c'est avec Fatima. Fatima qui nous appelle de Rony. Fatima, bonsoir Fatima.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Je vois que votre voix est portée de très loin du combiné. Rapprochez-vous s'il vous plaît du combiné.
Je m'approche, oui.
Quel est votre... Bonsoir, allez-y.
Bonsoir à vous, bonsoir Madame la Ministre, et bonsoir Shannon, qui a été mon coup de cœur que j'ai rencontré pendant les élections municipales.
Ah, vous la connaissez, non?
Oui. Shannon, c'est bonne,
écoutez, tant mieux, c'est bien.
Voilà, que je vous dis, c'était mon coup de cœur pendant les élections municipales.
Bon.
Donc oui, moi je suis...
Tant mieux, Shannon.
Votre émission... Votre émission m'intéresse énormément.
Bah écoutez, merci de votre fidélité.
Une femme très active dans mon quartier.
Quelle est votre question?
Je voulais savoir pourquoi les élus étaient désintéressés des quartiers. Là, je reviens, il y a eu une inauguration d'une épicerie solidaire.
Ça commence là, madame la ministre.
Voilà.
Comment peut-on donner?
Qui s'investissent, oui. Qui s'investissent dans le quartier, ils ont bataillé, ils n'ont pas baissé les bras, et aujourd'hui, ils ont eu la possibilité d'inaugurer cette épicerie solidaire. Qui a d'un côté un café, en plus de ça, cet endroit était fermé aux femmes, que maintenant les mamans et les jeunes filles pourront se réapproprier, parce que c'est une autre mentalité. Donc, mais alors, ce désengagement, moi, c'est ce qui me...
Vous avez raison. Très bonne. Fatima, merci pour votre question. Elle a tout son sens. Pourquoi? Parce que ça commence là. La chose politique. Madame la ministre, vous répondez quoi?
Bonsoir Fatima. C'est un constat évidemment que dans certains territoires, il ne faut pas vraiment, encore une fois, je ne fais jamais de généralité, il y a évidemment dans certains territoires, certains élus qui se désintéressent de la question des quartiers. Je peux d'autant plus vous en parler à la tête de ce ministère. Et ce qu'on observe, c'est quand il y a justement une abstention extrêmement forte dans ces territoires. Dans ces quartiers. Et donc, vous avez des élus qui s'engagent sur une partie de la ville et qui délaissent totalement l'autre partie. Tout simplement parce qu'ils ne participent pas au débat démocratique. Parce que le vote, c'est le moment où on a à exprimer notre accord, notre désaccord sur une politique locale, sur une politique nationale. Et quand on boude les urnes, quand on ne se déplace pas, quand on n'exprime pas son point de vue, eh bien, certains élus estiment qu'effectivement, ils se désintéressent de la chose publique. Et donc, en retour, les élus s'en désintéressent. C'est pourquoi je mène un combat sans relâche.
Dites-moi,
sans
madame.
Sans relâche sur la question.
Justement,
du vote
sans relâche.
Dans
du
nos
vote.
Quartiers.
Non, mais c'est tout l'objet de cette émission de ce soir. Une question d'actualité. Comment avez-vous trouvé le président sortant candidat à Dijon, justement, où on a couvert l'événement il y a quelques jours à peine, donc avant-hier? Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que. Il y a des choses qui vous ont frappé, interpellé durant cette séquence à Dijon.
Ce qui m'a interpellé, c'est l'accueil qui lui a été fait. Il y a eu des scènes d'accueil juste extraordinaires. Des Macron présidents dans le quartier La Fontaine-Douche. À Dijon, j'y suis allée dans ce quartier. Un quartier qui est frappé par les difficultés, bien évidemment. Un quartier frappé par les difficultés que l'on connaît dans tous les quartiers de France, un quartier aussi où il y a plein de talents, il y a plein d'énergie. Et ce que nous nous sommes attelés à faire depuis des années, c'est aller les révéler et c'est de traiter ces territoires comme des territoires de potentiel. Aujourd'hui, les habitants le lui rendent, et ils le lui rendent bien. Là où certains pensaient que la voix des quartiers populaires n'appartenait pas à celle du président de la République, et bien je crois que l'exemple de Dijon en est tout autre. Et ensuite, il y a eu cette séquence avec les forces vives, qui n'étaient pas forcément que des militants du président Emmanuel Macron, ni de notre majorité présidentielle. Il y avait des responsables associatifs qui étaient même dans d'autres courants politiques qui étaient présents ce jour-là. L'unanimité, c'est que c'est un président qui écoute, c'est un président qui sait de quoi il parle, c'est un président qui connaît le quotidien.
Alors pourquoi on a le sentiment que la campagne, elle peine à démarrer?
Mais parce que tout simplement, vous savez, le président, de par sa fonction, il ne vous aura pas échappé que nous avons une guerre aujourd'hui qui sont aux portes de l'Union européenne, qui sont dans le territoire européen et qui doit gérer, de par sa casquette, de par ses responsabilités qu'il doit aux Français, il doit gérer cette situation pour éviter que l'escalade ait lieu, que cette guerre arrive chez nous. Donc, il a cette responsabilité. Donc, évidemment, ça a retardé son entrée en campagne. Et quand vous voyez le débat, le niveau du débat public et politique aujourd'hui, il est affligeant. Et je me pose vraiment beaucoup de questions sur l'intérêt, justement, de nos jeunes à ce débat politique et public quand ce débat se cristallise autour de polémiques, autour, encore une fois, de violences, de mots extrêmement violents et de banalisation aussi de cette violence.
Eh bien, on continue d'en parler, on va marquer la première pause pub et on se retrouve tout de suite après avec Madame la Ministre, Madame Nadier, chargée des questions de la ville, justement, avec Shannon Seban, Gamal Abina et enfin Amine Saha qui est sorti de ses bouchons. Ça va? Bonsoir Amine.
Très bien, et vous, Adil Farkan?
Très bien, très bien. Super. Eh bien, on lance le débat tout de suite après la pub. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés présidentielles 2022, Adil Farkan.
Il est 19h21 et le débat s'installe. On va l'installer, le débat. Démocratie, je pose la question, est-ce qu'elle est en crise ? Ce désintérêt politique en France, nous allons tenter de comprendre, évidemment, de décrypter, de vous apporter une analyse avec Madame la Ministre, Madame Nadia, et avec Amine Saab, maire adjoint sur la ville de la Courneuve, avec également une élue, Shannon Sebang de Rosny-sous-Bois, et enfin avec un acteur local et national même d'ailleurs sur les questions des quartiers populaires, Gamal Abina.
Les informés, le face-à-face.
Madame la ministre, je lance le débat, y compris évidemment avec nos débatteurs qui ont l'habitude de venir ici aux informer. Cette élection présidentielle, franchement, à quelques jours du premier tour, semble particulièrement ne pas animer justement la population des quartiers populaires, une situation qui s'explique selon certains spécialistes notamment. Et j'ai envie de vous poser cette première question, la raison pour laquelle il y a un désengagement politique sur cette campagne présidentielle. Pourquoi ? Nous voulons comprendre.
Il y a pas
je parle des quartiers populaires. Il y a une menace. Du désengagement.
Il y a une menace, en fait, effectivement, mais vous savez, dans les quartiers, il y a un vrai paradoxe.
Oui.
J'en viens et je sillonne les quartiers de France depuis maintenant plusieurs mois, années même. Il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a un véritable engagement, en réalité, politique dans nos quartiers. Mmh. Parce qu'il s'engage soit pour la chose publique, l'intérêt général, ça peut être un engagement associatif. On voit aussi, et les dernières élections municipales nous l'ont parfaitement démontré, un engouement aussi pour s'investir dans la politique locale. Donc, il y a un engagement politique extrêmement fort. Et moi, je viens d'un milieu extrêmement populaire, extrêmement modeste, où s'improvisait dans nos dîners familiaux cette question politique et la politique en général. Donc il y a un engagement, il n'y a pas de désengagement. Par contre, c'est au niveau des élections, quand il faut aller se déplacer, quand il faut aller voter. Et c'est là où moi il y a une incompréhension, c'est qu'aujourd'hui on a une offre politique
large. Sauf que le désintérêt croissant, il est de plus en plus...
Mais ça ne peut pas être concernant une offre politique, parce que là, le panel est extrêmement large. Vous avez Zemmour d'un côté, Poutou de l'autre, et entre deux, vous avez une offre juste extraordinaire en termes de propositions. Donc, ce n'est pas la question de la proposition qui pose un certain problème, c'est peut-être, effectivement, peut-être à expliquer. Est-ce qu'on croit encore à l'action du politique ? Et moi, je crois vraiment que ces dernières années, les lignes que nous avons bougées, notamment avec le tissu associatif, notamment sur la question des femmes, parce que Fatima l'a rappelé tout à l'heure, notre auditrice, sur la question des femmes, nous avons été la majorité qui a mis le collectif de femmes en avant. Nous avons discuté ensemble sur un soir à votre antenne des gilets roses. Mmh. Et donc, nous avons mis cette question des femmes aujourd'hui au cœur de notre politique publique et au cœur de notre action. Donc ça ne peut pas non plus être un manque d'action politique. Il faut essayer de comprendre, mais je pense que sincèrement, cette question d'abstention, elle ne sert personne.
Elle ne sert personne.
En premier lieu, les personnes à qui on s'adresse, et notamment les quartiers populaires.
Et bien justement, je vais faire un tour de table, justement les débatteurs qui sont avec nous, mais y compris aussi des élus. Shannon Sebon, tiens, je vous donne la parole. Et ensuite, je fais un tour de table. Alors...
Moi, aujourd'hui, ce que je constate en tant qu'élu de la Seine-Saint-Denis, c'est que en 2017, en Seine-Saint-Denis, vous avez le taux d'abstention qui était le plus élevé de France, avec de mémoire aux alentours de 28% de personnes, donc d'habitants de Seine-Saint-Denis, qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Mais aujourd'hui, effectivement, et je vous rejoins, Madame la Ministre, on a un véritable problème et un véritable paradoxe qui est que quand on va sur le terrain, eh bien, on se rend compte que nos jeunes ont des idées, que nos jeunes veulent faire porter leur voix et ont des choses à dire.
Ils ont des choses à dire, mais on ne veut pas les écouter. C'est pour ça qu'ils n'y croient pas.
Non, alors, ça, je ne pourrais pas vous le laisser dire à dire parce que je
pose la question.
Non, depuis 2017, le président de la République, il a compris que les jeunes et que les Français avaient un besoin de s'exprimer, avaient besoin de dire les choses. C'est pourquoi il a fait le choix de la démocratie participative. Et ce qu'on doit rappeler, que a été mise en place les consultations sur l'Europe, qu'a été mise en place le grand débat. Autant de mesures et autant, si vous voulez, d'exercices qui permettent aux Françaises et aux Français de s'exprimer et de faire valoir leur voix. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on ne laisse pas la possibilité à nos jeunes et aux Français de s'exprimer, je ne peux pas l'entendre. En revanche, aujourd'hui, quand on regarde le taux d'abstention, 30%, il est effectivement
le plus élevé. Sauf qu'on a une réalité, Shannon Sebon, c'est que les jeunes semblent se détourner justement de cette campagne.
Mais regardez, Adil,
les jeunes des quartiers populaires.
Je vais vous dire les choses. J'ai 26 ans.
Les choses.
J'ai 26 ans, je viens de Seine-Saint-Denis. Eh bien, moi, quand je me mets à la place de ces jeunes, je les comprends. Ils me disent, bon, une voix de plus, une voix de moins, finalement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que finalement, me rendre dans mon bureau de vote le 10 avril, est-ce que ma voix va changer quelque chose?
C'est vrai, vous avez raison, c'est ce qu'ils disent.
Une voix de plus, une voix de moins, ça ne changera rien. Et bien, ce qu'il faut leur dire, et aujourd'hui, le discours qu'il faut tenir, et moi, moi c'est le discours aujourd'hui que je viens porter à votre micro, Adil, c'est de leur dire que leur voix changera quelque chose. Parce que l'abstention, c'est donner du crédit aux extrêmes. Que aujourd'hui, le président de la République notamment l'a prouvé, en votant pour tel ou tel candidat, on donne la possibilité à un candidat, si vous voulez, de mettre en place des politiques qui seront utiles au quotidien. Et moi, je pense que tous ces jeunes-là qui sont dans les quartiers, justement, et qu'on appelle la plupart du temps les invisibles et qui ne veulent pas se déplacer voter, il faut leur dire que si tu votes pour tel ou tel candidat, eh bien, grâce à lui, tu auras des repas étudiants à 1 euro à la cantine.
Je fais le tour. Je fais le tour de table, j'ai envie de vous dire, Madame la Ministre.
C'est très important ce que dit Shannon Seban, parce que, en réalité, chaque jeune qui ne se déplace pas aux urnes, chaque jeune qui boude les urnes, il donne sa voix à quelqu'un d'autre. La voix pour Marine Le Pen.
Mais est-ce que c'est pas la sécurité, l'immigration, l'islamophobie qui sont des thèmes qui sont beaucoup trop abordés, justement? Est-ce que c'est pas ça qui pose problème aussi?
Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut remettre un peu de rationalité dans tout ce que l'on fait et arrêter d'être sous le coup de l'émotion et de l'irrationnel. Et donc, aujourd'hui, le débat pollué, il faut pas mélanger le débat médiatique à l'action politique. Le débat médiatique se cristallise autour de ces questions. Est-ce que l'action politique, elle se cristallise autour de cela? La réponse est non. La preuve en est, nous sommes pas la majorité qui porte en priorité la thématique de l'immigration, même si effectivement faut traiter le sujet. Nous ne faisons pas une focalisation non plus sur la question de l'islam comme l'extrême droite. Nous ne sommes pas dans cette priorité-là.
Alors certains vous diront non. Moi j'ai eu beaucoup de.
En même temps, il y a des sujets qu'il faut traiter et nous sommes en responsabilité aujourd'hui. Sur la question du séparatisme religieux, nous sommes obligés de la traiter au même titre que les autres. Mais la façon dont on en parle n'est pas celle aujourd'hui de l'extrême droite. Évidemment que non.
On continue d'en parler avec Gamal Abina, Amine Saha. Gamal Abina.
Bon, déjà, je rends hommage à un ami, Abdelbajid Belouka, qui nous a quittés hier, il y a 2 jours, du Covid.
Effectivement. Voilà, donc on lui rend hommage aussi sur notre antenne, qui était un grand militant.
Grand militant, très, très actif sur les questions d'antiracisme et d'islamophobie. Donc, là, il va être enterré aujourd'hui et il va être enterré en Algérie. Voilà, ça c'est pour donner une petite explication.
Mais vous avez raison de le rappeler, effectivement.
C'est important de rappeler qu'il est enterré non pas ici mais là-bas. Pourquoi ? Parce que effectivement, d'abord on dit les jeunes, j'aime pas le terme parce que c'est un excès de langage. C'est pas les jeunes, c'est des habitants des quartiers. On est plus tous jeunes. Il y a des gens qui sont un petit peu plus âgés.
Disons les habitants des quartiers populaires.
Voilà, parce que il y a les votants, ils sont c'est un prisme assez large. Ensuite, oui. Alors j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que Monsieur Macron a pour lui une qualité, il n'est pas raciste. C'est vrai. Indiscutablement, Emmanuel Macron a démontré, par le fait d'avoir placé à la députation un certain nombre...
Et je confirme, il ne dit pas ça pour faire plaisir, il l'a toujours dit sur l'antenne.
Absolument.
Ici.
Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que je défends Macron sur cette question-là. On ne peut pas lui mettre ça en opposition. En revanche, dans son mouvement, c'est un mouvement qui est très large, qui est un prisme large, il y a un courant de gauche et un courant de droite, voire de droite dure, qui a malheureusement tendance à plutôt l'emporter, à mon sens, ces dernières années. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez dit que l'offre politique était effectivement importante, sauf que depuis la chute des espoirs de l'Est, ce qu'on appelle la gauche, qui a trahi systématiquement ses engagements, on le sait depuis les années 80, ne parle plus aux jeunes et à ces fameux quartiers. Pourquoi ? Parce que ils ont le sentiment que ce réservoir de voix naturelle que la gauche avait confisqué trop longtemps, finalement, a été une arnaque. Je parle de Mitterrand et de tout ce qui a suivi derrière. Il y a eu très peu de gauche en France, ça a duré 2 ans, de 80 à 83. Je m'en souviens, à l'époque, effectivement. Deuxième raison qui se pose, et c'est la question sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le fait qu'on parle de vote de ces fameux quartiers, oubliant d'abord qu'on les utilise comme une sorte de variable d'ajustement, on l'a vu avec Hollande, et surtout oubliant le fait que nous n'avons pas de tradition démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que nos parents, qui viennent souvent de pays d'Afrique du Nord ex-colonisés, n'avaient pas le droit au vote. Où ça a duré 2 ans ou 3 ans sous les périodes coloniales algériennes, mais des faux votes en général. Mmh. Et donc, ils n'ont pas transmis, ce qui est une tradition française ou démocratique européenne, le réflexe d'aller voter. Les parents disent pas aux enfants, allez voter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, l'offre, aujourd'hui, elle est peut-être large sur un éventail, qui à gauche est très faible, si ce n'est peut-être du côté de Mélenchon qui devient l'espoir, entre guillemets, et qui à droite a tendance à s'extrémiser. On voit bien avec Pécresse qui a un discours de plus en plus d'extrême droite. Il y a 3 candidats d'extrême droite. On a Zemmour, on a quand même Le Pen, et on a évidemment Dupont-Aignan qui est une sorte de troublion. Alors ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que parler aux populations des quartiers, d'abord c'est une question économique qui n'a pas été réglée depuis 40 ans. Mmh. Ça fait 40 ans qu'ils sont abandonnés. Les plans de la ville...
Alors Gamal Abina, on va pas faire l'expertise de ça. Soyons pragmatiques, s'il vous plaît. Même si l'histoire, évidemment, est importante.
C'est parce que j'ai une question très précise par rapport à ça.
Allez-y.
Vous êtes ministre de la ville, ça a commencé avec Mitterrand qui avait placé les ministres. On l'a eu 2 fois. Monsieur qui était beaucoup bien d'ailleurs, qui était ministre de la ville, monsieur qui est décédé maintenant, j'ai plus son nom, Bernard Tapie. Voilà. Après, on a eu 3 ministres de la ville, et c'est pas un hasard, issus d'immigration. D'accord, vous, on a eu le Khomri, On a eu Fadel Amara qui n'a pas été bonne. Il y a toujours eu des plans mirifiques de financement qui n'ont pas abouti, vous le savez très bien. Oui. Donc maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que M. Macron, il y a 5 ans, vous le savez aussi, avait promis que ces quartiers ne seraient plus délaissés. Il se trouve que la France va mal économiquement, on le sait, et que ces quartiers ont bien compris qu'ils restaient délaissés. C'est un fait, hein, c'est indiscutable. Il y a des dispositifs mis en place, mais c'est très lent. Alors le plan Borloo, c'était de faire des nouveaux immeubles pour que ce soit beau.
Mais allez, il faut aller vite, c'est bien malabina.
Juste comme ça, pour conclure donc, rapidement, j'ai envie de vous poser une question. Qu'allez-vous faire concrètement pour dynamiser, non pas les questions de sport ou je ne sais quoi, ce qui est périphérique, ou de rap, je ne sais pas quoi, qu'allez-vous faire pour faire en sorte de créer de la richesse, de la production de richesse, et une lutte efficace contre le racisme des dirigeants et des DRH qui refusent de les recruter? Ils refusent, moi je suis chef d'entreprise, je vois très bien ce qui se passe sur le terrain, qui refusent de recruter ces gens des quartiers. Qu'allez-vous faire pour dynamiser l'économie? Là, c'est du concret, c'est du sérieux, et c'est la seule question qui intéresse les quartiers, c'est comment vont-ils faire pour pouvoir avoir de l'argent.
Et il faut que ça nous amène tout ça à l'insujet de ce soir, l'intérêt, le désintérêt, alors, la question du vote.
Il est marqué par ça, précisément, parce qu'ils sont trahis. Et
alors
sont
attendez,
trahis.
19h31, je vous redonne la parole, madame la ministre, c'est le 19h30, c'est le Quad Neuf, comme tous les soirs. D'accord. C'est parti.
Les informés, le Quad Neuf.
Vous aurez la réponse tout de suite après, vous me permettez, c'est le Quad Neuf du docteur Majid Seyoussine. Bonsoir, mon cher docteur, chef de service de l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires et au SAMU. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, mon cher Adil.
Eh bien, nous vous écoutons pour votre billet, comme chaque mercredi soir, qui tourne autour de la campagne. À vous la parole.
Eh bien, écoutez, mon cher Adil, ça y est, la campagne a commencé. On nous ressort cette séquence kitsch du clip de campagne. Cet exercice traditionnel semble bien désuet à l'heure des réseaux sociaux, de TikTok, de Twitch. C'est un peu comme ces repas de fin d'année au bureau, où il faut participer, mais que tout le monde préfère éviter. La recette est très simple pourtant, une simple musique doucereuse, une voix calme, balancée et sirupeuse, qui récite son boniment sans convaincre grand monde. Nathalie Arthaud qui récite mécaniquement son traditionnel « Travailleur, travailleuse !» Yannick Jadot, on doit le dire, innove un peu, en nous racontant sa vie au sens propre du terme, ce qui apparaît tout de même un peu décalé et aurait sans doute servi de matière c'est à une parodie pour les guignols.
Vous bah, c'est pas fini, hein.
C'est pas fini. Bah, mon psychiatre dit que je suis tout à fait normal et qu'il n'y a pas de profit.
Génial.
Donc, je disais tout à l'heure, ce clip de Jadot est servi de matière à une parodie pour les guignols s'ils existaient encore. C'est dommage, ils ont disparu, remplacés par CNews. Cette semaine, le grand événement médiatique, ce sera le meeting de Sa Majesté, EM, elle-même, soi-même, personnellement, qui aura lieu dans un endroit tenu secret pendant un certain temps, mais qui semble être du côté de la défense.
Du côté de la défense, oui. Samedi à 14h30.
Et là, mon cher Adil, je vous parie une chose. Il portera une chemise blanche, une cravate, et il aura retroussé les manches de sa chemise. Avez-vous remarqué, Adil, que partout où il passe en ce moment, il adopte cette tenue?
Oui.
Prenant l'air convaincant, prenant l'air convaincant de celui qui veut vous vendre une AX diesel de 250 000 km, en vous faisant croire que Citroën est l'avenir de l'humanité.
Pardon. Oh là là, vous êtes fous, vous êtes fous. Voilà le klaxon de l'AX. Vous la vouliez, la voici. Ah là là
en
là
tout
là
cas, mon cher Adil, l'avenir de la France s'est joué ce samedi, place du Trocadéro, où M. Z réunissait dans une démonstration de force qui ne le fera certes pas devenir président, mais était tout de même un sacré beau succès, des dizaines de milliers de supporters
c'est
sous
vrai,
le soleil.
C'est vrai.
Et je n'ai pas pu m'empêcher, même si c'est totalement excessif, de penser au grand rassemblement de Nuremberg.
Ouais, exact.
Tous ces gens hurlant, on est chez nous, voire semble-t-il, Macron assassin, ce que M. Z n'a probablement pas approuvé.
Il l'a condamné. Hein.
Non, il a pas entendu.
Si, il l'a condamné. Il l'a condamné.
Pas trop tôt.
Mais d'une certaine manière glacé. Nous ne nous rendons pas encore compte de toute cette campagne infusée dans les esprits. Mais Adil, le passage le plus intéressant se situe à 2h30 sur la vidéo de YouTube de son meeting quand il s'adresse aux musulmans. Ah. En leur parlant directement, avec une certaine
qu'est-ce
franchise.
Qu'il dit?
Et d'ailleurs, je vous invite tous à l'écouter quand il nous explique que lui, contrairement aux autres, ne veut pas nous utiliser, que lui nous demande de faire un effort d'assimilation, quand il nous invite à faire ce qu'a fait sa famille, dont il dit que les grands-parents parlaient à peine le français, à s'assimiler en somme, quand il dit qu'il ne peut pas empêcher la pratique d'un culte, mais qu'il réclame la discrétion, si vous vous en souvenez, Adil, que réclamait en son temps un certain Jean-Pierre Chevènement. Le tout sur un ton beaucoup plus convaincant que le clip d'Anne Hidalgo, qui restera pour moi la plus belle démonstration d'un délire auto-érotomaniaque où la championne du monde de l'emmerdement urbain se transforme en Wonder Woman.
Eh bien, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo.
C'est pas fini, mon cher.
Ah, mais je croyais que c'était fini. Et faites vite, parce que là, on va lancer la pub, mon cher docteur.
Ah, la pub. Eh bien, tout cela, tout de même, ce meeting ne peut me faire m'empêcher de repenser à cette séquence où on voyait en 1995 le général Mladic, bouché de Srebrenica, caresser la tête d'un enfant pour le rassurer, alors que ses troupes avaient massacré 800 000 personnes. Là, vous pouvez me couper le sifflet.
En tout cas, bravo, mon cher docteur Majid Soussine, comme chaque mercredi. Excellent. Mercredi prochain ?
Avec joie, mon cher. Avec joie
partagée. 19h37, nous marquons la courte pause pub. On se retrouve et je vous donne la parole, madame la ministre. Je ne vous ai pas oublié concernant, évidemment, la question de Gamal Abina. Et je donne la parole aussi à Amine Saha. Je voudrais qu'on avance. Les quartiers populaires ne sont-ils pas devenus les grands oubliés de cette campagne? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Et 19h41 sur Les informés, spéciale présidentielle avec madame la ministre, madame Nadia Hay, chargée des questions de la ville avec Amine Saha, avec Shannon Seban, avec Gamal Abina.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
Madame la ministre, madame Nadia Hay, je vous donne la parole, je vous redonne la parole plutôt, puisque tout à l'heure, Gamal Abina vous a interpellé.
Oui, vous pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir, à la fois sur le constat que vous posez et à la fois sur la question que vous posez. La question des quartiers, elle a été vue sous l'angle de la rénovation urbaine pour, si on vient vraiment à simplifier et à schématiser très rapidement, la rénovation urbaine pour la droite, l'accompagnement social, le lien social, et encore quand ce n'était pas une variable d'ajustement dans les politiques de la gauche. Et nous, l'ouverture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le projet que nous portons pour ces quartiers, encore une fois, que nous voyons comme des territoires de potentiel, ce sont des pépites à l'état brut qu'il faut réussir à accompagner pour bien façonner et les emmener vers la réussite. Et moi, depuis 2 ans, à la tête de ce ministère, j'ai mis en place des programmes de développement économique dans ces quartiers pour accompagner à la création d'entreprises. Je crois que beaucoup de nos auditeurs connaissent Kamala Harris aussi, mais surtout Moussa Camara, qui est beaucoup plus connu, je pense, que Kamala Harris dans nos quartiers. Nous avons des programmes avec la BPI qui permettent d'accompagner à la création d'entreprises. Pendant la crise, en plus de tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises, j'ai débloqué la prime entrepreneur des quartiers pour aider nos TPE, nos indépendants dans les quartiers à trouver justement et à traverser cette période de crise. Et donc, et à côté de ça, j'ai mis en place des mécanismes qui permettent de faire de créer une rencontre entre l'offre et la demande pour amener les habitants des quartiers vers le travail, qui ont été trop longtemps dans des situations de chômage et pour lesquels nous n'avons pas mis en place suffisamment de mécanismes pour créer des passerelles, pour créer des ponts, pour
rapidement
créer une méthode,
Gamal,
qui fait rencontrer justement tous ces mondes et qui permet à tous de sortir de l'accompagnement social et pour être autonome financièrement et indépendant financièrement des aides sociales.
Gamal Abina.
C'est notre vision des choses. On les voit comme des territoires où le développement économique doit être une règle et non plus une exception.
Il faut qu'on avance.
Trop longtemps et que ces jeunes et ces moins jeunes aujourd'hui puissent s'en sortir par le travail. C'est le projet que nous portons, c'est ce que nous avons mis en place en 5 ans et c'est ce que nous continuerons de mettre en place à travers notamment le programme Quartier 2030 où le président de la République dit que la France de 2030 ne peut pas être la France de 2030 sans ses quartiers.
Et bien justement, des projets justement sur le madame la ministre, il faut qu'on avance et je me poserai la question finalement pourquoi voter et pourquoi les quartiers populaires doivent voter quand on dit que les quartiers populaires, il y a eu un dossier extraordinaire qui a été publié dans le journal Le Monde qui dit clairement que les quartiers populaires ce sont les oubliés de cette campagne, stigmatisés à droite, les absentes justement de discours à gauche, bref, des pleure beaucoup d'élus. Gamal,
une
phrase.
Une question très courte, mais provocatrice exprès, je provoque un peu le débat, parce que je ne comprends pas le phénomène Macron, donc qu'est-ce que vous pourriez me dire? Est-ce que c'est un homme de gauche? C'est ça la question que je vous pose, c'est très simple.
Macron, madame la ministre.
Emmanuel Macron, c'est un homme qui est pragmatique, qui quand il y a des idées de gauche, il les prend à son compte et il les met en œuvre. Les gens de gauche ont rêvé de faire le reste à charge zéro. Les gens de gauche ont rêvé d'augmenter les minimums sociaux. Les gens de gauche ont rêvé de supprimer la taxe d'habitation. Les gens de gauche ont rêvé d'augmenter les revenus pour les plus précaires d'entre nous.
Donc à gauche, à droite,
les gens de gauche,
entre les deux,
ont rêvé, Emmanuel Macron l'a fait. Les gens de droite ont rêvé d'alléger la fiscalité sur les entreprises. Les gens de droite ont rêvé de supprimer l'ISF. Les gens de droite ont rêvé de mener une vraie politique en faveur du travail dans notre pays. Les gens de droite l'ont rêvé, Emmanuel Macron l'a fait.
Mais pragmatique, donc.
Non, s'il vous plaît, il faut qu'on avance.
Il est ni de gauche et de droite, Aminsa, ni de gauche ni de droite.
Aminsa, donc l'élu de la Courneuve.
Moi, je suis pas venu précisément parler de ni de du bilan.
Restons sur le vote.
La question des quartiers.
Pourquoi voter vote,
moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que on constate évidemment ce paradoxe entre à la fois ce désamour pour les urnes, mais en même temps un niveau de politisation des quartiers extrêmement important. On le voit, ils sont engagés dans les associations, dans les clubs sportifs, dans leur quartier, ils le font vivre, mais en même temps, ils subissent finalement ce que subit l'ensemble des Français, et certainement à plus forte raison. Pourquoi ? D'abord, les Français considèrent, ils boudent les urnes depuis quelques années, parce que ils se sentent pas considérés. Alors, quand les Français en général se sentent pas considérés, et ben en Seine-Saint-Denis, par exemple, et Shannon me contredira.
Sauf que Jean-Louis Borloo aujourd'hui il sonne l'alarme.
Alors attendez,
il a écrit
il a raison de le faire parce que
il sonne l'alarme. Il sonne l'alarme.
C'est un territoire que je connais bien. Qu'est-ce que nous disent les jeunes et les moins jeunes par ailleurs ? Vous avez raison, c'est pas uniquement les jeunes qui se sentent
les habitants
en désamour vis-à-vis des politiques. C'est les habitants en général. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous voulez qu'on s'intéresse aux échéances, vous voulez qu'on s'intéresse au débat public. D'abord, vous parlez jamais de nous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors, et c'est un reproche que je fais à l'ensemble de la classe politique, y compris celle auxquelles j'ai pu appartenir ou à laquelle j'appartiens. Il y a cette première difficulté. Ensuite, pour pouvoir s'engager en politique, il faut être dans un certain confort. Il y a des difficultés sur la question du logement. Il y a des difficultés sur la question de l'emploi. Et sur le logement en particulier, je crois que je suis pas là pour faire des reproches, mais ce quinquennat n'a pas servi à grand chose. Il faut le dire. Dans les quartiers populaires, on a retenu la baisse des APL, notamment pour les plus jeunes. Il y a eu ces ponctions sur les bailleurs sociaux qui les a mis en difficulté, notamment pour engager la rénovation urbaine nécessaire, pour engager l'entretien des immeubles dans les quartiers. Ça, c'est une difficulté. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il y a dans ces quartiers-là où il y a se concentrent toutes les difficultés finalement. C'est là où on met le moins de moyens. C'est là où il y a le moins de policiers par habitant, alors que les questions d'insécurité plombent les quartiers.
Alors on va laisser répondre Madame la ministre.
Oui, parce que
je termine. On n'a pas le temps. D'un mot, rapidement.
Voilà, et ils se sentent par-dessus tout stigmatisés. À chaque fois qu'on parle d'eux, c'est pour en dire du mal.
Vous savez,
ça, c'est insupportable dans nos quartiers.
Jean-Louis Borloo a écrit l'alarme, un texte de 92 pages en forme de manifeste qui a été publié le 25 mars dernier. Il dit. Regretter le temps de la coalition et des branle-bas de combat, il propose un pacte de réconciliation nationale avec les 10 millions d'oubliés. Voilà ce qu'il dit.
Mais
il sonne l'alarme.
Je pense que vous savez ce qui a été délétère pendant toutes ces années, pendant ces décennies, et c'est pourquoi je me suis engagée en politique, c'est justement contre cette formulation de Jean-Louis Borloo pour dire qu'il y a 10 millions d'oubliés. Moi, j'ai vécu 30 ans dans ces quartiers, jamais je me suis considérée comme étant une oubliée. Et les difficultés que vous décrivez, monsieur Saha, moi aussi, je les ai vécues. Et je me bats tous les jours. Et vous ne pouvez pas dire que les gens des quartiers sont des oubliés de ce quinquennat. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde les courbes aujourd'hui de nos politiques publiques, des budgets qui sont consacrés, les budgets sont en hausse. Qui a relancé la rénovation urbaine ? C'est nous. On passe de 5 milliards à 12 milliards d'euros pour refaire Saint-Ouen, pour refaire Saint-Denis, pour refaire la Courneuve,
oui,
pour refaire
Rosny. Avec un niveau d'investissement moins important.
Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Factuellement, ce n'est pas vrai. Non, mais factuellement, ce n'est pas vrai. Et là, nous sommes dans le débat irrationnel parce que nous sommes dans le ressenti qui n'est pas la réalité de terrain.
Alors, comment on fait ? Pourquoi voter alors ?
Adil, arrêtons, je lance un cri d'alarme et d'alerte et peut-être de colère. Arrêtons de voir ces quartiers comme sous l'angle misérabiliste. Arrêtons de les regarder comme des victimes. Il y a des talents, il y a de l'énergie, il y a des gens qui sont formidables et qui se battent contre ce que vous dites et ce que dit Jean-Louis Borloo. Ce n'est pas vrai. Ils se battent, ils créent, ils entreprennent. Évidemment que c'est plus difficile
Madame
qu'ailleurs,
la ministre, s'il vous plaît.
Parce qu'il y a un cumul des difficultés.
Madame,
mais nous nous y attelons. On ne peut pas nous reprocher de ne pas faire en 5 ans ce que d'autres n'ont pas fait en 40 ans.
Je sais qu'en une heure, on n'a pas le temps.
Non mais,
on refera des émissions.
C'est un cri, de colère que je lance. Arrêtons avec la victimisation des gens des quartiers.
Vous avez raison.
Ils ne veulent pas qu'on les assigne à cette place-là. C'est cela l'assignation à résidence.
Pourquoi?
Et c'est cela qu'on combat.
Je voudrais juste, à quelques jours du premier tour, donc à 11-12 jours, pourquoi voter?
Votez parce qu'aujourd'hui, vous avez deux projets pour la France qui se confrontent. Celui de l'extrême droite et celui que nous portons. Celui que nous portons vers le progrès. Celui qui veut faire que tous les territoires de la République réussissent, qu'on soit en zone rurale ou qu'on soit dans les quartiers. Celui qui voit la France en 2030 comme une France compétitive, attractive, qui reprenne des couleurs sur la scène internationale. Ce que nous avons commencé à faire il y a maintenant 5 ans. Et donc, la continuité de l'action qui a été menée, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense que là, aujourd'hui, la France en a besoin.
Quel est votre principal message en direction des habitants des quartiers populaires,
voter,
Madame la ministre?
Exprimez-vous, exprimez votre point de vue, parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Ils confisqueront votre vote, votre voix, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut se déplacer.
Est-ce que vous sonnez l'alarme?
Voter, comme Jean- bien voilà. Évidemment, et se battre contre l'extrême droite, se battre contre les idées racistes, contre la vraie discrimination et la stigmatisation. Donc il y a deux projets.
Et le vote des quartiers populaires compte.
Le vote des quartiers, mais cette voix-là a toujours compté. Adil, je ne serais pas à la tête de ce ministère si elle ne comptait pas pour notre majorité. Le président ne serait pas allé chercher une enfant de trappe pour s'occuper des quartiers populaires si ce sujet ne l'intéressait pas. Depuis que je suis dans ce gouvernement, c'est plus de 30% d'augmentation du budget de la politique de la ville. C'est 2 milliards de plus dans la rénovation urbaine. Donc oui, allons voter, allez voter, parce que la question des quartiers, elle est centrale et leur voix compte plus que tout.
Un tour de table parce que je rends l'antenne dans 2 minutes.
Sur
Shannon Seban, d'une phrase.
Adil, vous posez la question, pourquoi voter? Moi, je rappellerai tout d'abord quelque chose qui est tout à fait trivial et vous me le direz, c'est une banalité. Aujourd'hui, en tant que citoyen français et en tant que citoyen européen, voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Ukrainiens qui sont dans une crise démocratique majeure que la démocratie n'est pas une chance? Aujourd'hui, on a la possibilité, le 10 avril prochain et le 24 avril prochain, de se rendre aux urnes et de changer l'avenir de notre pays. Ensuite, le second point que je voudrais rappeler, c'est que les enjeux de cette élection sont immenses, Adil. Aujourd'hui,
ils sont immenses. Aujourd'hui,
ça, on a 3 modèles qui s'offrent à nous. Tout d'abord, le premier modèle, c'est le modèle de la décroissance. Et moi, c'est ce que j'appelle le modèle de l'extrême gauche. Un modèle qui est très cynique. Un modèle dans lequel on ne conçoit pas que l'écologie peut rimer avec croissance. C'est un modèle finalement à la Greta Thunberg où l'on se dit finalement que l'écologie ne peut pas rimer avec la croissance. Le deuxième modèle aujourd'hui qui s'offre à nous, c'est le modèle de l'extrême droite. Et c'est un modèle du repli sur soi, dans lequel on se dit que la France aujourd'hui ne peut exister que de façon totalement souveraine. Et ce qu'on prône, c'est le modèle de l'extrême droite, c'est de se dire que la France ne peut être forte que hors de l'Union européenne, qui est un modèle qui est archaïque. Et puis ensuite, vous avez le troisième modèle. Ce troisième modèle, c'est le modèle qui est prôné par notre président de la République, qui se représente en 2022, et qui est un modèle équilibré, qui croit
c'est
en une croissance
Madame la ministre.
Juste, durable.
Gamal. J'ai bien compris, pardonnez-moi.
Vous voyez le message.
C'est
de se dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de choisir en 2022 et le 10 avril le modèle de croissance qui régira nos concitoyens pour les 5 années.
Gamal Abina, Gamal. Vraiment, en 10 secondes, je suis désolé.
Ce qui est dommage, c'est qu'on en arrive. Bon, on a parlé d'Ukraine, mais je vois pas.
On fera le débat.
Ce qui est dommage, très rapidement, c'est qu'on arrive à une chose, c'est de dire qu'il y a soit la direction gouvernementale, la démocratie en l'occurrence, soit l'extrême droite.
10 secondes.
Moi, je pense que ces caricatures doivent s'arrêter une fois pour toutes. S'il y a une extrême droite, c'est qu'il y a un problème et le problème, il faut l'identifier.
Oui.
Amine, ça.
Moi, je voulais juste
phrase.
Préciser mon propos.
Non. Pourquoi voter, s'il vous plaît?
Voter parce que d'abord, il faut pas se faire voler cette élection. Je pense que il y a un enjeu majeur. Tout le monde l'a dit. Et malgré les difficultés qu'on peut avoir dans ces quartiers, il faut se déplacer, il faut y aller. Et c'est en s'exprimant qu'on fait avancer les choses.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin,
secondes.
C'est vraiment aller voter. La France a besoin de vous. Votre voix compte. Et si vous ne vous déplacez pas, elle comptera double pour d'autres. Donc l'offre politique aujourd'hui, elle est suffisamment large pour pouvoir répondre à vos besoins. Exprimez-vous. Et encore une fois, faisons barrage à l'extrême droite. Il n'est pas question que la France bascule et que ces idées-là infusent dans l'opinion publique.
Je disais quelques années. Merci, Madame la ministre. Il y a quelques années, ici même sur l'antenne de BFM, je disais Vote mon pote, exprime ton opinion.
Ah, excellent.
Vote mon pote, exprime ton opinion. Et ben je crois que je vais le reprendre.
Ah ouais.
C'est exactement
c'est
ça.
Faire des badges à dire.
Exactement.
Vote mon pote.
Vote mon pote, exprime ton opinion.
C'est ça.
Merci Madame la ministre, Madame Nadia.
Merci
Amine Saha, maire adjoint à la Conave. Merci la conseillère municipale donc à Rony-sur-Bois, Shannon Seban. Merci à Gamal Abina, la réalisation. C'était Giovanni et à tous celles et ceux que j'ai pas pu passer à l'antenne. Vous l'aurez compris, une heure ça ne suffit pas. C'est vrai. Faudrait deux heures. Mais vous reviendrez.
Avec plaisir, je suis toujours ravie d'être sur votre antenne.
Je sais,
suis une fidèle auditrice.
Merci pour votre fidélité, Madame la Ministre. Allez, à demain avec autant de plaisir. C'est Bilal Lendman que vous retrouvez de 20h à 21h avec Thème Sport. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.